RCF. Bonsoir à tous, magazine régional 18h10, 19h. Bonsoir Alexis.
Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver en région Jean-Pierre.
Et très bonne année Alexis et très bonne année à nos auditeurs avec évidemment Claude Ruiz qui est avec nous. Très bonne année Claude.
Ben oui, et très bonne année à vous et à tous les auditeurs. On se pose toujours des questions donc on va les aider encore plus à trouver des réponses.
Parmi les questions que Claude se pose, que nous réserve 2024, c'est la question que l'on lui posera dans quelques secondes à l'intérieur d'un nouvel épisode de Regards sur le monde, Jean-Pierre.
Et puis on retrouvera certainement également ce soir des maires, je crois qu'on prendra la direction des Ardennes.
Tout à fait, de Villesmeuse en particulier avec Jérémy Dupuis qui sera en ligne avec nous. Jérémy Dupuis qui est maire de Villesmeuse mais qui est aussi conseiller départemental dans les Ardennes, évidemment, et puis qui est vice-président d'Ardennes Métropole.
Effectivement.
Ça fait quelques casquettes quand même d'importance dans le département des Ardennes.
Je crois que vous resterez dans le journal, même si on ne voit pas l'intégralité du journal, un peu à Charleville-Mézières, qu'on entendra des vœux.
Effectivement, notamment ceux de Boris Ravignon, qui a prononcé hier ses vœux aux habitants de Charleville-Mézières. Un discours qu'il a axé notamment sur la solidarité à différents niveaux.
Et puis, on retrouvera bien sûr l'actualité chalonnaise.
Oui, dans l'actualité chalonnaise, on présentera la nouvelle grille de RCF Cœur de Champagne. Peut-être que certains auditeurs de cette radio locale s'en sont rendus compte au fil de la journée, mais la grille de programme est modifiée en ce début d'année 2024 et cela va durer. On nous expliquera pourquoi, plus précisément, le président de RCF Cœur de Champagne, Gabriel Francard, expliquera pourquoi.
Et puis, je crois que nous retrouverons également le jardinage.
Effectivement, ce sera avec Hubert le jardinier qui nous dira quoi faire dans nos jardins, comment s'occuper de nos plantes, de nos fleurs, de nos arbres en cette saison hivernale. On parlera aussi de tourisme avec les projets pour 2024 présentés par Juliette Delcourt, attachée de presse à l'Agence de développement touristique de la Marne. Et puis, une université de la vie avec Alliance Vita. Le rendez-vous, c'est à partir du 15 janvier. On en parlait en fin d'année 2023. On rappelle ce rendez-vous en début d'année avec Marie Payard, qui l'a délégué départemental d'Alliance Vita pour le département de la Marne. Jean-Pierre, je sais que Claude Ruiz est impatient, mais comme il est de coutume généralement, on demande toujours au directeur, au président des radios, ce qu'il souhaite pour une nouvelle année. C'est un petit peu le moment finalement de formuler vos vœux aux auditeurs de RCF, Jean-Pierre.
Eh bien, aux auditrices et aux auditeurs de RCF, on souhaite d'abord, en premier lieu, toujours la santé, parce que c'est quand même, j'allais dire, le moteur de la vie. Si on a vraiment des accidents de santé, c'est tout de même plus délicat. Mais enfin, on souhaite à tous que tout aille bien, et puis que dans les relations humaines, dans leur famille, dans les gens qu'ils rencontrent, eh bien on peut dire que tout soit très très bien. Il faut signaler aussi, puisqu'on est, on parle de vœux, qu'en ce moment il y a le remaniement qui se met en place. Gabriel Attal avait la cote pour être futur Premier ministre. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est quasiment officiel.
Elisabeth Borne vient d'annoncer, déposer sa démission.
Voilà, la Première ministre avait été reçue par le Président de la République au cours de cette fin d'après-midi. Et les bookmakers, comme on dit en anglais.
Les bookmakers
disaient...
J'étais presque, Jean-Pierre.
J'avais dit les boomers. Non, les bookmakers disent que Gabriel Attal aurait la corde, mais bon, j'allais dire, comme on dit dans le bled, Inch'Allah, miktoub.
Jean-Pierre Benoît, on va regarder dans le petit carnet rouge parce que vous ne vous baladez jamais sans. Et on sait que dedans, il y a les rendez-vous importants de l'année. Peut-être que nos auditeurs peuvent déjà faire quelques croix dans le calendrier pour des rendez-vous RCF compatibles, j'entends.
Alors, RCF, évidemment, nous donnons toujours la parole à nos évêques. On retrouvera vendredi Monseigneur Véteux. On retrouvera ensuite Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Parmi les invités, on aura sans doute des personnes qui présenteront leurs vœux. Mais en ce moment, on est un petit peu sur la sellette parce que...
On attend de savoir ce qui se passe avec le remaniement gouvernemental.
Il peut y avoir des effets collatéraux dans les nominations qui pourraient concerner les élus de notre région. Et donc, ça modifierait un petit peu le paysage. Donc, on est un peu en attente, hein, Alexis, il faut dire la vérité.
Eh bien, on va patienter sagement et à 18h15, on va se tourner vers Claude Ruiz qui, lui aussi, attend son tour pour démarrer cette année 2024. Claude, bonjour.
Bonjour.
Alors, que nous réserve 2024 en ce début d'année, période de vœux? C'est aussi celle des interrogations sur l'année à venir. Quelles sont les principales questions que l'on doit se poser, Claude Ruiz, avec vous plus particulièrement sur le plan géopolitique ou géoéconomique?
Oui, vous avez raison, dans cette période de vœux, on va parler d'interrogations parce qu'en réalité, même notre émission avec Jean-François Boulanger concerne essentiellement beaucoup de questions d'interrogations. On ne donne pas toujours les réponses.
Vous donnez des pistes de réponses.
Voilà, des pistes de réponses. C'est très bien vu, ça. C'est une bonne chose pour le début de l'année. Mais je crois qu'on sait très bien qu'au niveau économique, social, géopolitique, le monde change. Il suffit de regarder la littérature qui sort, pas seulement des articles de journaux, mais aussi dans la littérature autour de la géopolitique. Et je crois qu'il y a une compétition qui est de plus en plus forte quand on regarde le monde. C'est pour ça que ça nous inquiète, cette compétition entre les grands pôles. Même les grands pôles sont parfois en danger, les grands pays, les grandes zones, en fin de compte, qui tiennent un petit peu l'économie mondiale. Quand on regarde, si on prend des exemples au hasard, la puissance américaine, elle est très présente, hein, cette puissance américaine. Elle a une énergie à bas prix. Je vous rappelle que c'est le premier producteur mondial de pétrole. Qu'elle le vend aux États-Unis quand même à un prix trois fois plus faible qu'en Europe. Ça doit nous ramener à la pompe et au prix qu'on paye. Donc les États-Unis ont des atouts. Ils attirent les entreprises du monde entier. Ça permet aussi une politique parfois d'attraction basée sur des exemptions fiscales, en particulier pour la haute technologie. Donc quand on regarde les États-Unis, comme ça on se dit, bon, ben, ça marche assez bien. Et quand on regarde la Chine, ben, on s'aperçoit que c'est pareil un peu dans les côtés positifs. La Chine accède à presque tous les marchés du monde, mais l'hypercroissance, quand même, là, elle est un peu plus sensible. La croissance est un peu en berne. Certains parlent de mauvais choix dans l'immobilier. Vous savez, les Chinois, ils ont investi beaucoup, ils ont placé beaucoup de capitaux. Maintenant, ils ne savent pas comment les sortir de ce marché immobilier. Il y a des flux toujours très importants des ruraux vers les villes. La concentration, ça, on n'est plus à l'époque de Mao Tse-tung qui avait une gestion du territoire un petit peu plus, on va dire, autoritaire. Les investisseurs qui préfèrent souvent les pays périphériques que la Chine elle-même, hein, si c'est mieux à côté et moins cher, eh ben on va à Singapour, on va en Inde, on va en Corée, on va au Vietnam, aux Philippines. Et la faiblesse démographique, les Chinois, on se demande s'ils croient vraiment dans leur modèle, puisque ben, ils n'ont pas trop d'enfants, hein, moins 7 millions d'actifs chaque année. Alors vous me direz, ils sont 1,5 milliard, on a le temps de voir venir, mais quand même, ça pèse sur l'ensemble.
On va se rapprocher un petit peu de chez nous, si vous voulez bien, Claude Ruiz, et on va arriver en Europe, qui rentre en année électorale. Les élections européennes, c'est le 9 juin pour la France.
Oui, alors, vous le voyez, dans 6 mois, on va dire, hein, on aura peut-être une autre image, on ne sait pas. Hein. Est-ce que ça aura un impact sur la politique européenne? On ne sait pas, mais on sait très bien que actuellement il y a quand même beaucoup d'interrogations. On parlait d'interrogations au début. Hein, peut-être un changement de paradigme. Et vous l'avez vu il y a quelques jours avec le décès de Jacques Delors, grand Européen, qui nous oblige à évaluer les différentes politiques, à savoir si elles étaient favorables, défavorables, trop fortes à l'ouverture intérieure, pas assez fortes à l'ouverture extérieure, ou l'inverse. Donc on s'aperçoit que aujourd'hui, on est dans ces mêmes problématiques pour l'Europe, fermeture, ouverture. Alors bien entendu, les thématiques qui apparaissent, c'est bien entendu l'économie, mais ce sont aussi des populations. Est-ce que les migrations sont bien gérées? Sur le plan économique, est-ce que l'Europe peut devenir une grande puissance? Il y a de nombreuses divergences. Les pays européens ne voient pas exactement la puissance au même niveau. Bien entendu, ça dépend si vous êtes le Luxembourg hein, à 350 000 habitants ou si vous êtes l'Allemagne à plus de 80 millions. Tout ceci pèse beaucoup sur la politique européenne. Et bien entendu, on l'a vu, même sur les frontières extérieures, alors que les pays sont en accord, il y a des tensions. Vous avez peut-être vu le blocage des frontières polonaises aux camions ukrainiens. Hein, on faisait appel à cette ouverture et on s'aperçoit qu'on est un peu replié.
Cela veut-il dire, Claude, que l'Europe puissance est impossible ?
Ben, il existe, cette Europe puissance existe en termes de richesse globale, à l'échelle de la planète, mais ça se traduit pas toujours en puissance militaire, diplomatique ou géopolitique, si vous voulez. On s'aperçoit que la projection de l'Europe à l'extérieur, elle est toujours obligée de passer par des canaux, et principalement les accords militaires, comme l'OTAN. Et donc, par conséquent, on est soumis pour l'Europe, un petit peu aux souhaits ou aux actions des États-Unis. Donc, on s'aperçoit qu'il y a des zones dans lesquelles on peut très peu intervenir ou difficilement intervenir. Vous l'avez vu au Moyen-Orient, l'Europe ne sait pas exactement, bien entendu qu'elle a une action de calme, mais elle ne sait pas toujours définir, en fin de compte, une tendance forte. Et on l'a vu récemment avec le Yémen, où la révolution houthi qui s'intéresse en fin de compte au canal de Suez, qui peut fermer la mer Rouge et le canal de Suez, l'Europe, elle a du mal en fin de compte à définir. Oui, elle veut bien intervenir, mais jusqu'où? Les États-Unis ont dit venez avec nous, les pays européens disent un petit peu d'ordre dispersé, on n'ose pas trop y aller. Donc vous voyez, il y a beaucoup d'interrogations.
Un bilan qui ne nous aide pas vraiment, il faut bien le dire, en vue des élections du mois de juin finalement.
Oui, pour les élections, je dirais, puisque c'était un petit peu l'émission d'aujourd'hui, il faut s'interroger beaucoup sur quelle Europe, sur celle que l'on souhaite, celle qui est proposée par les différents candidats. Tout est affaire souvent de nuances, il faut savoir faire des priorités, et je pense que chaque électeur doit définir ses priorités, et j'ai envie de dire, il faut qu'ils passent leur temps, il y a 6 mois, il faut qu'ils dessinent leur Europe, il faut pour le mettre en rapport avec les candidats qu'ils vont avoir, donc sur lesquels ils vont avoir à intervenir.
Merci Claude Ruiz d'avoir regardé sur le monde avec nous une première fois en 2024. Nul doute que ce numéro sera suivi par beaucoup d'autres. À très bientôt.
Au revoir.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
18h22, après les vacances de Noël, on reprend nos habitudes avec un maire qui nous parle. Jérémy Dupuis est maire de Villesmeuse dans les Ardennes, à côté de Charleville-Mézières. Il est également vice-président d'Ardennes Métropole et conseiller départemental. Il est surtout au micro de Jean-Pierre Benoît.
Jérémy Dupuis, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Et tous nos voeux, bien sûr, de bonne année, monsieur le maire.
Eh bien, mes voeux également aussi à vous et puis à toute votre équipe et à toutes les équipes d'RCF ainsi que les auditeurs.
Samedi, Jérémy Dupuis, vous avez adressé vos vœux à tous les habitants de Villesmeuse. C'est une tradition chez vous, ce contact avec la population. On dit souvent que les politiques sont éloignés du terrain, mais là, le maire, en particulier à Villesmeuse, vous êtes très au contact avec les habitants.
Ah oui, effectivement, moi c'est une cérémonie qui est traditionnelle et qui m'affectionne particulièrement parce que tout simplement c'est une cérémonie depuis 2014 où on invite l'ensemble des habitants à venir à cette cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal. Et c'est quelque chose d'important parce que c'est vrai que c'est un moment où on permet de se retrouver, d'échanger aussi, dans un moment de convivialité. Mais ça permet aussi de faire le bilan des activités de l'année passée, de rendre compte en fait aux habitants de ce qu'on a fait et puis de projeter sur les actions qui vont être menées dans les années à venir et sur l'année 2024 en particulier.
Quand on parle de nombre d'habitants à Villesmeuse, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles en ce moment qui tombent?
Alors c'est plutôt des bonnes nouvelles effectivement puisqu'on est sur une croissance du nombre d'habitants qui se poursuit depuis 2014, qui a continué depuis la première élection. On a réussi à créer des nouveaux logements, à créer des lotissements donc qui ont permis une augmentation de la population. Et c'est vrai que dans un contexte qui est assez difficile où beaucoup de communes ardennaises perdent des habitants, nous on réussit aujourd'hui à tout petit, arrivé à nos 3700 habitants petit à petit, ce qui n'a jamais été le cas dans cette commune. Donc c'est vrai qu'on a vraiment, on bat des records. Et puis on a encore des constructions, des réaménagements de logements dans la commune qui vont faire que dans les années à venir, le bilan va continuer d'être positif. Donc c'est vrai qu'on ne peut que se réjouir de cette augmentation du nombre d'habitants qui va se poursuivre au moins dans les 6-7 prochaines années.
Et puis il faut dire aussi que, évidemment, vos administrés vous interrogent sur les travaux, sur ce qui va se passer. Et là, tout naturellement, dans vos vœux, d'ailleurs, vous y êtes revenu. Les travaux continuent, bien sûr, dans les rues, parce que c'est ce qu'on voit aussi beaucoup, ça, quand il y a des travaux, quand ça s'améliore.
Ah ben tout à fait, nous c'est vrai qu'à Villesmeux on a tendance à évoquer toujours la volonté d'être une commune où il fait bon vivre, c'est un petit peu le terme que les maires emploient depuis plusieurs années ici, mes prédécesseurs y compris, et c'est vrai qu'aujourd'hui on porte une attention particulière effectivement aux travaux qui sont faits dans les rues, donc voilà, par rapport aux moyens qui sont les nôtres, mais c'est vrai que de pouvoir refaire plusieurs rues au cours d'un mandat, c'est important pour que voilà les conditions soient bonnes, tout simplement pour rouler, pour se promener, et puis aussi la propreté de la commune, c'est quelque chose où on met vraiment un point d'honneur à ce qu'on ait une commune qui soit entretenue, que les agents effectivement fassent très attention, et c'est aussi quelque chose qui est attendu par les habitants, j'allais dire le quotidien. Moi je parle souvent du bout de macadam, de la benne à verre, de la poubelle, parce que je pense que c'est des choses qui sont très importantes, c'est le quotidien, l'environnement de chaque concitoyen, et c'est ce qui lui permet aussi de vivre de manière sereine et puis heureuse finalement dans notre commune.
Sans compter les fleurs, l'embellissement, ça fait partie du cadre de vie quand vous accueillez des nouveaux habitants, parce que Villesmeuse, c'est quand même recherché comme commune aujourd'hui.
Alors effectivement, aujourd'hui, on a des habitants qui recherchent la commune, où l'immobilier, effectivement, est assez tendu, puisque dès qu'une maison est en vente, elle est rapidement acquérie par des habitants. Mais effectivement, d'un autre côté, ça demande aussi beaucoup d'exigences, parce que ces habitants, ils veulent avoir une commune qui reste bien entretenue et bien fleurie, et qui réponde aussi aux attentes aujourd'hui du développement durable, de la sécurité, et tout ça, il faut qu'on puisse le prendre en compte.
Monsieur le maire, évidemment, on peut regarder le court terme, on peut regarder ce qui va se passer demain et après-demain. C'est très habitant pour les habitantes et les habitants de Villesmeuse. Mais vous avez une vision, vous mettez en perspective, comme on dit, parce que c'est vrai que ce soit les matières de jeunes, l'accueil de jeunes dans les écoles, que ce soit les personnes plus âgées ou les personnes qui auront besoin de médecins. Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations, monsieur le maire ?
Alors aujourd'hui, ça fait partie de mes préoccupations, et en plus, j'allais presque dire que c'est un leitmotiv, parce que on a décidé, nous, de nous affranchir un petit peu des contraintes électorales. C'est ce que j'ai annoncé à mes habitants lors des vœux, et qu'on ne pense pas forcément simplement en termes de mandat, de programme de 6 ans, et qu'aujourd'hui, il est très important d'inventer l'avenir et de réfléchir à l'avenir, et c'est pour ça que j'ai aussi présenté des projets de regroupement scolaire dans ma commune, de création de maisons médicales, et qui sont des projets qui vont nous emmener jusqu'aux années 2028, 2029, 2030, et qui vont nous engager pour les 30 années qui suivent, parce qu'un pôle scolaire, des choses qui sont construites pour durer, et ça, c'est aujourd'hui, c'est aussi important, parce que même si c'est des projets qui sont à 8 ans, à 15 ans, à 20 ans, c'est des projets que l'on doit décider aujourd'hui, que l'on doit réfléchir aujourd'hui, construire aujourd'hui, et que l'on doit aussi financer aujourd'hui. Et donc, effectivement, je pense que c'est ce qui nous permettra demain de tirer un peu notre épingle du jeu dans cette commune, c'est d'avoir pu anticiper justement toutes ces constructions, tous ces projets, et faire que dans les 15-20 ans à venir, on sera, armé et prêt à faire face aux demandes, et puis tout simplement accueillir toujours plus de nouveaux habitants, puisque ce sont aussi des plus jeunes qui amènent des enfants dans les écoles. C'est aussi des personnes un peu plus âgées et qu'il faut accompagner. Si elles peuvent rester à Villesmeuse le plus longtemps possible, c'est aussi important. Donc c'est effectivement toute cette société qu'il faut accompagner, aider, et puis par mesure de solidarité aussi. Donc c'est vrai que c'est les grands défis des années à venir, et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que j'évoque souvent avec les habitants, c'est penser le quotidien et agir au quotidien, mais aussi réfléchir sur tous ces projets d'avenir et commencer à les mettre en place.
Mais en ce qui vous concerne, Jérémy Dupuis, un atout quand même considérable que vous avez, parce qu'une commune ne peut pas financer toute seule, c'est les liens que vous avez aussi avec Ardennes Métropole, vous avez des responsabilités, aussi en lien comme conseiller départemental, parce que vous allez faire appel à des collectivités, il faut que vous suiviez les dossiers, et c'est quand même mieux de les avoir sous la main et pouvoir participer directement à ces instances que de regarder ça d'un peu loin. Ça c'est un plus pour Villesmeuse.
Alors c'est vrai que c'est un plus pour Villesmeuse. Alors moi je le dis souvent, alors j'essaye de ne pas être trop égocentré ni trop individualiste, mais effectivement il y a eu un choix qui s'est opéré à un moment donné, c'est-à-dire que moi j'ai choisi d'arrêter une partie de ma carrière professionnelle avec des conséquences qui ne sont pas toujours positives, parce que ce qui fait que on arrête de travailler en partie et ça a des conséquences souvent personnelles. Mais d'un autre côté, c'est un choix que j'ai fait et j'ai décidé de m'y atteler, ce qui m'a permis effectivement de cumuler plusieurs mandats, celui de conseil départemental, celui de vice-président de l'agglomération, donc qui me permet de m'investir à 100% pour mes habitants, et je leur dis souvent, alors peut-être que c'est encore un petit peu individualiste, hein, parce que j'ai 45 ans, je vais avoir 45 ans, mais je dis souvent à mes habitants de, voilà, que je suis pas naïf, mais qu'en tout cas, j'avais décidé de servir Villesmeuse, je pense que c'est le verbe, en tout cas le terme qui convient le mieux, et d'y occuper tout mon temps. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, un élu qui veut faire correctement le travail, eh bien, en tout cas, il faut s'y investir pleinement et vraiment habiter sa commune, mais que voilà, vous y habitez, mais que votre commune vous habite aussi. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait partie des choix de vie que j'ai fait, que je ne regrette pas du tout, au contraire, et je mesure aussi la chance justement de pouvoir cumuler ces différents mandats qui me font apprendre beaucoup de choses et puis qui me permettent aussi justement d'essayer d'en rendre le plus possible à mes concitoyens.
Je dirais peut-être même plus, Jérémy Dupuis, que plus que même de cumul, c'est plutôt complémentaire, parce que tous les dossiers s'enrichissent mutuellement et puis les connaissances qu'on a là, on s'en sert pour ailleurs, si vous voulez. Ça fait partie, je crois que les gens le comprennent aujourd'hui.
Oui, je crois qu'effectivement, on le dit souvent, il y a quelques détracteurs qui souvent sont pas toujours d'accord avec ces histoires d'avoir plusieurs mandats. Mais aujourd'hui, je pense que tout simplement, nos concitoyens, déjà, ils sont extrêmement capables d'évaluer le fait de faire correctement ces mandats, puisque tout simplement, si c'est mal fait, eh bien, il y a la sanction des urnes. Et si les gens revotent pour vous, c'est que finalement, ils considèrent que le travail est correctement fait. Et puis voilà, il suffit d'expliquer. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est qu'il y a un enrichissement permanent de la part de ces mandats. Et ça permet de travailler aussi tous ensemble, qui est la complémentarité. Moi, je le vois avec les maires de mon canton, par exemple, le canton de Villesmeuse, c'est un petit canton d'une douzaine de communes, mais les maires sont tous des amis, travaillent ensemble, et c'est aussi ce lien d'amitié, de convivialité qui font aussi avancer les projets.
Merci en tout cas, Jérémy Dupuis, d'avoir été avec nous. Merci, au revoir.
Au revoir, Jean-Pierre Benoît.
Et il est 18h32, c'est l'heure du journal régional sur RCF. Avec les titres de ce lundi 8 janvier, retour sur les vœux de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardenne Métropole, qui a axé son discours, sur la solidarité pour cette nouvelle année. Ce lundi démarre pour RCF Cœur de Champagne une nouvelle grille de programme, un choix non voulu mais essentiel.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Il n'y a pas de mauvais temps, juste de mauvais vêtements. Voilà un proverbe suédois qui invite à vous habiller chaudement ces jours-ci, en cette période de grand froid venu de Russie. Depuis 2018, l'Hexagone n'avait plus connu telle situation météo. Malgré une belle journée, demain, ce mardi, devrait être le jour le plus froid de la semaine, avec les thermomètres qui prendront à dépasser les 0 degrés tout au long de la journée. Les températures seront même négatives et descendront jusqu'à moins 5 degrés localement, ressenti attendu moins 12 voire moins 13 degrés. Cependant, afin d'être lexicalement correct, ne parlez pas autour de vous de vagues de froid, ce phénomène décrit par Météo France comme épisode durable et étendu de froid pendant au moins 3 jours selon deux critères. Le premier, il faut que l'indicateur thermique national soit inférieur à 0,9 degrés pendant plus de 2 jours. Il est coché puisqu'ayant débuté aujourd'hui, les températures ne devraient pas se relever avant jeudi. Le second, il faut que l'indicateur thermique national bascule au moins une journée sous les moins 2 degrés et celui-ci devrait manquer à l'appel puisqu'au plus bas, on l'estime à moins 1 degré. C'est dans ce contexte que le maire de Charleville-Mézières et président d'Ardenne Métropole, Boris Ravignon, a présenté ses vœux hier après-midi. Durant son discours, il a appuyé sur la solidarité à différents niveaux et notamment à celle liée à la météo.
Être solidaire, c'est par exemple refuser que quiconque dans notre ville soit contraint de dormir dehors. Et c'est le cas aujourd'hui. Grâce au travail des associations, grâce au travail de l'État et des collectivités comme le nôtre, il y a tous les jours non seulement des hébergements disponibles au 115, mais il y a aussi des personnes qui sont là pour vous aider, pour aider ceux qui sont en difficulté et les accompagner dans leur démarche. Alors il va faire froid dans les jours qui viennent et dans les nuits à venir, donc n'hésitez pas, si vous rencontrez personne en difficulté, à les orienter vers le 115 ou vers notre CCAS pour que nous puissions leur apporter l'aide d'urgence dont ils ont besoin dans ces circonstances. Alors on n'est pas dans un froid sibérien comme la télévision nous rebatte les oreilles depuis quelques jours, il ne faut quand même pas exagérer. Dans les Ardennes, on est un peu habitué à ces températures. Néanmoins, dormir dehors, c'est, je crois, quelque chose qu'il ne faut souhaiter à personne. Et si on peut tendre la main simplement en avertissant les services qui sont là pour offrir un hébergement, eh bien, je crois que vous aurez les uns ou les autres fait une belle action.
L'idée fil rouge à retenir de l'ensemble de ce discours, Boris Ravignon souhaite être aux côtés de chacun et chacune des carolomassériens par le biais des services publics, eux-mêmes soutenus par la municipalité, par l'école et la scolarisation des enfants indispensables au bon fonctionnement de la République, mais aussi s'assurer que tout le monde puisse avoir accès à la culture en soutenant les associations organisatrices d'événements tels que la fête de la bière ou le festival mondial des théâtres de marionnettes et en assurant l'accès à ces manifestations avec un paiement partiel ou une gratuité complète pour certains d'entre eux, en assurant aussi l'accès au sport, en offrant des places pour les matchs de basket de l'Étoile et des Flammes, par exemple. Un discours que Boris Ravignon a ensuite accentué autour de la solidarité écologique. Les vœux intégrales 2024 de Boris Ravignon sont à retrouver sur la page Facebook de la ville de Charleville-Mézières. Lors de cette même cérémonie, Boris Ravignon a annoncé qu'un généreux donateur avait offert à la ville deux manuscrits d'Arthur Rimbaud, achetés aux enchères le 8 décembre. On y reviendra dans notre édition de jeudi. Pour les auditeurs fidèles de RCF Cœur de Champagne, vous avez peut-être remarqué dès aujourd'hui que le programme est modifié. En effet, RCF Cœur de Champagne entame une série de modifications significatives dans un souci de conformité à la législation en vigueur et de mise en avant du travail des producteurs locaux. Les émissions dédiées aux productions propres prendront désormais une place prépondérante à l'antenne, comme nous l'explique le président de RCF Cœur de Champagne, Gabriel Francard.
Nous étions en renouvellement de notre convention décennale avec l'ARCOM. ARCOM, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Et c'est vraiment l'autorité qui nous permet d'émettre. Si on n'a pas un accord de cette autorité, nous devons fermer nos émissions, nos antennes. Donc c'était très important qu'on se recale bien avec cette autorité. C'est un dossier qui était très très lourd et ça s'est terminé au mois de décembre avec la hiérarchie de l'ARCOM qui est venue vers nous en nous disant qu'il y avait quelques aspects du programme qui n'étaient pas tout à fait conformes à la réglementation. On était parti dans l'idée qu'il fallait que nos auditeurs aient des émissions diversifiées et donc il fallait qu'on ait des thématiques qui soient assez larges puisque RCF, je le rappelle, c'est une radio qui s'adresse certes d'abord aux chrétiens, mais plus largement, on est auprès de tous ceux qui sont ce qu'on appelle les chercheurs de sens. Qu'ils soient croyants ou pas croyants, faut qu'ils trouvent un intérêt à écouter RCF. Et dans les faits, RCF est écouté par 50% d'auditeurs qui ne sont pas pratiquants. Nous avons débordé de la réglementation en mettant des émissions qui n'étaient pas produites directement à Chalon, mais qui étaient de qualité, c'était ça notre souci, et qui étaient reprises à des partenaires. Donc nous avons rapidement, pour qu'on comprenne enfin ce qu'il manquait à nos programmes pour être conforme et que notre convention décennale soit vraiment renouvelée. Parce que c'était ça vraiment ma grande inquiétude.
Des propos recueillis par Christopher Fausten. Suite à ce changement, certaines émissions ne seront plus au programme, d'autres auront plus de diffusion et des émissions débarquent dans la grille, dont le nouveau rendez-vous sur le Sentier de la Foi à retrouver les mercredis midi et soir. Plus d'infos sur le site internet www.rcf.fr et dans la dernière newsletter de RCF, Cœur de Champagne. Sport, dans quelques sports collectifs, Fleur était à la Coupe de France ce week-end. En football, le Stade de Reims s'est imposé sur la pelouse de Dinan-Léon, 3-0. Hier après-midi et avance en 16e de finale. En basket, le Champagne Basket a décroché sa qualification pour les 8e de finale de la compétition en dominant Saint-Chamond 105-66 samedi. Basket toujours, mais en ligue féminine cette fois. Les Flammes Carolo se sont inclinées sur le parquet de Charnay 71-64 hier après-midi. Un revers qui plonge les Ardennaises dans la zone rouge à la 9e place. En volley, Chaumont s'est incliné à la maison 3-7-2 contre Tours lors de la 15e journée de Liga. Léo Marnet reste cependant leader du championnat. 18h39, ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19,
tous les jours,
sur RCF,
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
L'Agence de développement touristique de la Marne présente ses principales activités de l'année 2024 qui verront notamment la 10e édition du concours des jeunes talents du tourisme, le salon Destination Marne en mars à Châlons-en-Champagne et direction la véloroute en mai dans le secteur d'Épernay au Villet. Les précisions de Juliette Delcourt, attachée de presse à l'Agence de développement touristique de la Marne.
Juliette Delcourt, bonjour.
Bonjour.
Bonne année.
Merci à vous aussi, tous mes meilleurs vœux.
Cette année démarre avec des prestataires qui vont être heureux de leur année 2024.
Exactement. Donc cette année, l'Agence de développement touristique de la Marne organise pour la 10e année consécutive le concours des jeunes talents du tourisme. Donc le but de ce concours, c'est de valoriser les nouvelles activités sur le département de la Marne, ainsi que les entrepreneurs qui en sont à l'initiative.
Quelles sont les catégories qui sont proposées ?
Alors, il y a trois catégories. Une catégorie champagne et œnotourisme, une catégorie hébergement, gastronomie et produits du terroir, et une dernière catégorie, activités culturelles, naturelles, artisanales et de loisirs.
Quels critères sont à respecter pour candidater ?
Alors, il y a plusieurs critères. Il faut que l'activité ait moins de 10 ans. Il faut avoir élaboré ou conçu son produit. Il faut pouvoir justifier d'un réel savoir-faire, être dans une démarche liée à la qualité et à la créativité et s'inscrire dans une conduite de développement durable.
Quand faut-il s'inscrire ?
Alors, les inscriptions sont déjà ouvertes. Les dossiers d'inscription sont disponibles sur le site www.lesjeunestalentsdutourisme.com et vous avez jusqu'au 28 janvier pour déposer votre dossier et être retenu pour le concours.
Juliette, donc ça c'est l'activité immédiate. Y a-t-il une autre activité qui va prendre beaucoup de temps à l'ADT ?
Oui, il y en a même plusieurs. On remet en place le salon Destination Marne qui aura lieu en mars prochain. Donc qui est un salon qui regroupe tous les prestataires touristiques marnais. L'idée c'est un petit peu de lancer la saison touristique et de faire tout simplement découvrir aux habitants ce qu'il y a à faire chez eux pour les beaux jours. Et puis, on organise également le 19 mai prochain En Route Libre, qui est un événement qui va valoriser les mobilités douces, notamment le vélo. Et donc, on ferme 30 km de route le temps d'une journée pour que voilà, les locaux puissent circuler librement en vélo, à pied, en roller ou en trottinette non électrique.
Juliette, est-ce qu'on connaît déjà les parcours de la véloroute ?
Oui, bien sûr. Donc, il passera par Épernay, Dizy, Auvillers, Cumières, Mardeuil, Haye-Champagne et Mareuil-sur-Haye. Donc, l'idée, c'est que il y aura des places festives sur chacune des communes. Et puis, le parcours sera bien sûr indiqué entre chaque village étape et sécurisé, donc complètement fermé à la circulation des véhicules motorisés.
Juliette, si on veut en savoir plus sur l'Agence de développement touristique et ses actions tout au long de l'année 2024, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, vous y avez accès sur notre site internet, donc www.tourisme-en-champagne.com. Alors, soit c'est en page d'actualité directement notre site pour les grosses actualités, sinon vous avez une rubrique agenda et là vous pouvez découvrir tout ce qu'il y a à faire dans le département au cours de l'année.
Juliette Delcourt, merci. Je rappelle que vous êtes la attachée de presse de l'Agence de développement touristique de la Marne. Et puis, on va le refaire. Ça va être comme ça pendant quelques jours. Bonne année à tous nos auditeurs.
Merci beaucoup. Au revoir.
Des propos recueillis par téléphone par Gérald Gaillet de la rédaction de RCF Cœur de Champagne.
Le 18-19 sur RCF.
Allez, on va aller faire un tour dans nos jardins à 18h43 sur RCF Champagne-Ardennes avec le ADB+, RCF Cœur de Champagne, RCF Reims-Ardennes, avec Hubert le jardinier qui s'entretient au micro de Jean-Pierre.
Hubert le jardinier, bonjour.
Bonjour et bonne année, bonne santé. Une année florissante et une année fructueuse pour tous les auditeurs d'RCF et puis toutes les autres personnes qui n'ont pas l'habitude d'écouter RCF.
Quand je me suis demandé, après les vœux de Mgr Éric de Moulin-Beaufort la semaine dernière, qui pourrait-on avoir comme invité, je me suis dit, pourquoi ne pas commencer, non pas par un politique, un économiste, etc., mais plutôt parler plantes, parler jardinage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Alors Hubert, on sait que vous collaborez à l'Union et l'Ardennais le dimanche. On a pu regarder ce que vous pronostiquiez, c'était hier dans l'Union et l'Ardennais. Et puis aussi dans Rustica. Alors justement, il y a, des dictons qui font que parfois, après Noël, on peut prévoir peut-être ce qui se passe après au niveau de la météo. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Alors ça, c'est ma mère qui faisait ça. Et puis en fait, j'ai reposé la question autour de moi. J'ai cherché un peu. Et c'est vrai que c'est les 12 jours après Noël. C'est-à-dire chaque jour correspond au mois de l'année. On commence le 26, hein, le 26 décembre. Ça vous donne le temps du mois de janvier, 27, c'est le mois de février, etc. Donc là, je l'ai fait. Alors, on n'y croit pas, hein, vous savez. Mais au moins, je voulais vérifier vraiment si ce dicton est valable ou pas. Alors, je peux vous dire un petit peu ce qui s'est passé, hein, si vous voulez.
Depuis Noël, quoi, le 26 décembre, vous avez commencé le 26.
Oui. Ben voilà, donc vous avez tous remarqué qu'il y a plu, il y a fait du vent et tout ça.
Alors, mais si je comprends bien, pour bien comprendre, le 26 décembre, ce que vous avez vu avec les plantes, ce que vous avez remarqué, c'est oui. aussi ce qui se passerait donc en janvier 2024, puis tous les jours, ça serait février, etc. Donc vous allez faire 12 jours.
Voilà. Alors, en janvier, j'ai remarqué qu'il y aurait plus de soleil dans la deuxième quinzaine. Et honnêtement, ben on annonce un petit peu de froid, donc là pour l'instant ça colle, et que les vents partiraient du nord. Donc on a eu une direction du nord ce jour-là. Donc ça correspond là, pour une fois, pour le reste aussi sans doute. Alors au mois de février on aurait un temps couvert, doux, plus ou moins du soleil, toujours de la douceur bien sûr. Au mois de mars des éclaircies, toujours de la douceur. Toute la journée, pas de pluie, hein, pas de pluie depuis le début. Au mois d'avril, un temps couvert et toujours pas de pluie, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'y a pas plu, sauf dans la deuxième quinzaine du mois d'avril, il est tombé un petit peu de bruine, alors il faut un petit peu d'humidité. Au mois de mai, eh ben, le temps est resté couvert, pas de pluie le matin, et pas de vent non plus, mais toujours de la grisaille. Alors au mois de juin, de la pluie et du vent très tôt, dans le début du mois de juin, et alors un grand soleil, en fin de mois, avec pas mal d'éclaircies, il y aura toujours du vent. Et au mois de juillet, un temps calme et pas de pluie. Alors, le mois de juillet, c'est important, Jean-Pierre. Pour les agriculteurs qui nous écoutent, il faut absolument qu'ils finissent leur moisson au mois de juillet. Parce que si je vous parle du mois d'août, c'est le jour où on a eu la tempête. Et donc, on annonce, je peux prévoir, enfin, d'après ce dicton, de la pluie, du vent, vraiment pour le mois d'août. Et puis au mois de septembre, il y aura quand même un peu d'éclaircies, mais toujours de la pluie et du vent. Et c'est à peu près la même chose pour octobre, novembre et décembre, avec toujours un peu de grisaille. Mais là, on est quand même déjà l'année prochaine, quasiment.
En fin d'année. Alors voilà. Hubert, justement, puisque c'est le début de l'année, voilà, et que vous connaissez bien sûr les plantes par cœur, la vie des plantes, on pourrait se dire l'hiver, on n'a rien à faire quand on s'intéresse aux plantes. C'est l'hiver, il n'y a rien à faire. Est-ce que quand même, il y a des activités pour ceux qui aiment le jardin? Est-ce qu'on peut prévoir les choses? Qu'est-ce qui se passe?
C'est comme si vous disiez à quelqu'un qui fait un petit défilé de mode pendant l'été et qui ce défilé de mode, c'est pour la période hivernale ou inversement. Ben, le jardin, c'est un peu ça. On prépare les choses à l'avance. C'est-à-dire qu'il ne faudra pas se réveiller quand il commencera à faire beau et doux. Il faut le faire dès maintenant. Alors on commence des petits coups. Alors moi, c'est ce que je vais faire. Par exemple, un exemple tout simple, je commence à semer quelques tomates au mois de janvier. Alors, il y a deux solutions de le faire. Moi, j'ai la chance de pouvoir récupérer chez un agriculteur du fumier. Je chauffe, je fais ça à l'ancienne, hein, vraiment. Ça me coûte 0 euro, sauf un peu de fumier, un peu de main-d'œuvre, un peu d'huile de coude. Ou alors, chez vous, à la maison, vous pouvez aussi le faire avec des résistances électriques, sauf s'il fait très chaud chez vous. Mais ce qui est important, c'est d'avoir de la lumière, beaucoup de lumière. Et aujourd'hui, on vend des petites ampoules à LED qui permettent justement de pallier au manque de lumière à cette saison-ci. C'est-à-dire manque de lumière, mais surtout la durée du jour qui est importante aussi. Voilà ce qu'on peut faire. Alors, moi, je vais semer aussi les premières laitues. Là, je vais le faire ces jours-ci, toujours sur ma couche, hein, puisque j'ai mis du fumier, je vais la tasser. Et avec un petit peu de terreau par-dessus, et je vais semer mes salades de printemps, comme la reine de mai, par exemple, une laitue paumée qui est excellente. Voilà ce qu'on peut faire maintenant. On débute un petit truc. On peut débuter aussi, pourquoi pas, un semis de radis. Bien entendu, ça peut ne pas fonctionner, mais ça va vous coûter quoi? Quelques graines, c'est pas ça qui va vous ruiner. Donc ça vaut le coup de tenter le coup, c'est le cas de le dire.
Ça veut dire que pendant toute l'année, vous êtes vigilant. D'ailleurs, vous produisez une émission sur RCF qu'on entend le samedi et le dimanche. On va vous retrouver, bien sûr, toute cette saison 2024. Et puis, on le dit, dans l'Union et l'Ardennais. Là, vous préparez quand même les choses un petit peu à l'avance. Quand vous préparez vos articles, quand vous faites vos émissions, quand vous travaillez pour Rustica. Ça, c'est le travail de l'ombre d'Hubert, le jardinier.
Actuellement, là, au moment où on se parle, j'étais en train de répondre à des questions de Rustica qui vont paraître au mois de mars, hein, de cette année. Donc vraiment, il faut s'y prendre d'avance. Alors là, c'est le courrier des lecteurs. C'est un petit peu plus simple, mais il faut toujours se mettre par rapport à la saison. Quant à l'Union Lardonnais, je l'écris à peu près une semaine à l'avance. C'est-à-dire que pour le dimanche, je rends ma copie le lundi. Donc je vérifie un petit peu la météo, c'est pareil.
Hein. Alors, si on entre un petit peu dans les coulisses, ce lundi 8 janvier, vous allez rendre votre copie pour dimanche prochain à l'Union à l'Ardennais. Vous avez une idée de ce que vous allez déjà mettre?
Je vais faire un petit peu la suite de ce que j'ai écrit là. C'est dans l'actu, c'est les fameux biodéchets et le compost. Alors là, dimanche dernier, donc hier, j'ai fait paraître un article qui a été écrit lundi dernier sur le compost. Et ce lundi, aujourd'hui, je vais écrire un petit peu la suite. L'utilisation, la bonne utilisation du compost, ça vous l'entendez partout, il faut trier ces biodéchets. Il y a longtemps qu'on le fait à la campagne. Mais je vais en remettre une couche dimanche prochain.
Merci en tout cas Hubert le jardinier, qu'on retrouve bien entendu sur RCF, qu'on lit dans l'Union et l'Ardennais et dans Rustica. Merci Hubert, on vous souhaite une très très bonne année 2024. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous aussi et meilleurs voeux à tous les auditeurs de RCF et les autres.
Au revoir.
Merci Hubert, merci Jean-Pierre, 18h51.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et nous, on vous donne un rendez-vous désormais, cycle de formation aux enjeux bioéthiques créé et animé par Alliance Vita. L'Université de la Vie revient en ce mois de janvier 2024 au programme 4 soirées de formation dans plus de 150 villes en France et à l'étranger autour du sujet « Parier sur la vie, est-ce raisonnable ?» Pour nous en parler, Marie Paillard, déléguée départementale pour la Marne à Alliance Vita, au téléphone avec Christopher Fausten.
Marie Paillard, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Avant de parler de cette programmation et de ces différents rendez-vous, parlons un petit peu d'Alliance Vita qui a été quand même créée déjà il y a plus de 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous le présenter en quelques mots à nos auditeurs?
Oui, bien entendu. Alors, Alliance Vita est une association qui a, 30 ans cette année. Elle a été fondée en 1993 au moment des premières lois bioéthiques françaises. Et elle s'engage, sa mission et de s'engager dans la protection de la vie et de la dignité humaine. Elle a trois axes de travail dans sa mission. Le premier axe, le plus important, enfin un des très importants, car il est fondateur pour nous, c'est l'écoute et pour aider les personnes confrontées aux épreuves de la vie.
Oui.
Il y a trois services d'écoute. Un SOS bébé, pour les femmes ou quelquefois même des hommes, appellent pour tout ce qui touche à la grossesse, aux difficultés, aux troubles post-avortement, aux questionnements qui peuvent se poser dans les problèmes d'enfantement. Un deuxième service d'écoute qui est SOS fin de vie, pour tous les problèmes qui peuvent toucher à la fin de vie. Et un troisième service d'écoute qui est beaucoup plus récent, qui date du Covid, parce qu'on a eu des remontées à ce moment-là dans les autres services d'écoute, d'un service qui s'appelle TADEO, qui est un service fait par des soignants, pour des soignants. La deuxième mission est informer et former. Nous informons les politiques, les sénateurs. Nous sommes auditionnés au Sénat, à l'Assemblée, au Conseil de l'Europe. On est même accrédité aussi à l'ONU. Et nous informons et nous formons avec des universités de la vie. Et nous formons et informons le grand public quelquefois par des actions de rue. Et la troisième mission est d'alerter et de dialoguer.
Marie Paillard, Alliance Vita agit partout en France, y compris dans la Marne, vous le disiez, à travers trois points, trois missions. Parmi ces différentes missions, vous les menez tout au long de l'année. Notamment, vous avez parlé de la fin de vie. Ça a été le cas il y a quelques semaines de cela avec des conférences que vous menez dans le territoire.
Oui, nous avons mené une conférence à Chalon. Nous avons mené une action de rue de prévention du suicide. Pas à Chalon, mais nous l'avons mené à Reims et dans une centaine de villes en France en même temps. Donc tout ça, ce sont des missions d'écoute qui sont très importantes car nous avons des remontées de personnes lambda inconnues que nous ne connaissions pas. On entend quelquefois des témoignages qui sont très forts et qui nous permettent de remonter tout ça aux instances gouvernementales quand on est auditionné.
Et parmi ces différentes missions que vous menez au quotidien tout au long de l'année, eh bien, il y a ces rendez-vous Université de la Vie qui fait son retour dans les prochains jours, en janvier 2024, avec un programme assez riche, 4 soirées autour du thème « Parier sur la vie, est-ce raisonnable ?» Marie Payard, est-ce que vous pouvez nous présenter ce prochain rendez-vous ?
Ce prochain rendez-vous, le thème a été choisi car on s'est aperçu que il manquait d'espoir, surtout dans la jeunesse, sur la vie et sur le début de la vie, comment, pourquoi enfanter, pourquoi est-ce vraiment raisonnable. Il y avait vraiment un manque de confiance. Donc on a orienté cette Université de la Vie sur ce problème. Le premier lundi va parler de la vie à son commencement.
Donc ce sera le lundi 15, le premier.
Le lundi 15. Et la vie à son commencement, on va parler de l'enchantement de la maternité, de l'importance de la maternité dans la transmission, de comment entretenir l'élan de vie que nous portons et comment accueillir l'imprévisible. Comment cet élan de vie est puissance et source de réenchantement de notre monde et l'importance ça a. Donc pour cette première le premier lundi, nous allons avoir 4 intervenants.
D'accord.
Différents. Asilise Le Cor, Madame Martin Hugo et Blanche Treb, et un grand témoin qui a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Bluff, Madame Céline Revel-Dumas. Après, pour la deuxième soirée, le thème sera la vie dans son déploiement. Là, on va rechercher et découvrir nos forces, nos capacités à enjoliver le monde, la responsabilité que l'on a de préservation, d'innovation et de transmission. On va essayer d'aider les jeunes à ne pas se laisser prendre par l'émotion plutôt que par la raison. On va essayer d'unifier leur vie en les aidant à faire des choix responsables et on va essayer d'aider au discernement des repères et des questions de genre qui taraudent beaucoup la société et les jeunes actuellement.
Donc ça, ce sera le lundi 22 janvier.
Voilà, avec Tuc Dualderville, Laurent Blaise, qui s'occupe d'éducation affective et sexuelle, et Rita Droussy, qui accompagne les enfants transgenres.
Et donc, on a encore 2 autres rendez-vous, Marie Payard, le 29 janvier et le 5 février.
Voilà, le 29 janvier, ce sera la vie à son achèvement. Ce sera tous les problèmes du bien vieillir. Pourquoi choisir sa vie ? Enfin, parfois, choisir la vie est raisonnablement déraisonnable. Donc ça, c'est des problèmes qu'on entend beaucoup en ce moment, la fin de vie, les soins palliatifs. Donc sur ce thème-là, nous aurons comme intervenant Caroline Roux, derrière la demande d'en finir, qu'est-ce qui peut se cacher. On aura François Bertin-Hugo, qui est médecin, qui nous parlera de vieillir, peux-tu continuer à parier sur la vie. Et on aura François Baird, pour qui le discernement est une urgence de notre temps. Et un grand témoin qui sera Caroline Brandicourt, qui peut-être est connue de vos auditeurs, qui a parcouru la France à tricycle. Elle a une maladie neurodégénérative. Elle a parcouru la France à tricycle cet été.
D'accord.
Pour aller visiter tous les coins où il n'y avait pas de soins palliatifs. Et la quatrième soirée et dernière soirée sera Parier sur l'avenir, des rencontres avec des personnalités inspirantes, un mot de notre directeur général, et une table ronde. Cette dernière soirée, alors que les autres seront préenregistrées, cette dernière soirée sera en visioconférence avec, sur cette table ronde, Jeanne Bertin-Hugo, Tuc Dualderville, Blanche Treb, et elle sera clôturée par notre présidente.
Quatre soirées. 4 soirées, informations et inscriptions sur le site universitedelavie.fr. Dernier petit mot, Marie Payard, avant de nous quitter. Donc, ces 4 rendez-vous, on rappelle les dates, les 15, 22, 29 janvier et 5 février. À Châlons-en-Champagne, où exactement ?
Alors, à Châlons-en-Champagne, ça se passera à l'Évêché, 20 rue de l'Abbé Gillet.
Donc, à Châlons-en-Champagne, l'accès est libre.
L'accès est libre. Enfin, il y a une petite participation au moment de l'inscription, qui est de 15 euros pour les 4 soirées, pour le paquet des 4 soirées pour les étudiants, et de 20 ou 24 ou 25, je ne sais plus très bien, pour les autres, mais pour l'ensemble des soirées.
Merci Marie Payard d'avoir été avec nous en ligne aujourd'hui sur RCF pour nous présenter eh bien, cette université de la vie qui fait son retour dans les prochains jours, notamment à Châlons-Champagne pour la Marne. Je rappelle, délégué départemental Marne à Alliance Vita. À très bientôt, merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
Et merci à vous, Christopher. Les quatre soirées de formation ont lieu les lundis 15, 22, 29 janvier et le 5 février 2024. Information, inscription sur le www.universitedelavie.fr. Deux informations à vous rappeler avant que le réseau national de RCF prenne le relais. Le grand froid est arrivé en région Champagne-Ardenne. Couvrez-vous bien si vous venez à sortir ce mardi. Devrait être le jour le plus froid de la semaine. Et puis, c'est une information nationale. La première ministre Elisabeth Borne a démissionné. Le président de la République, Emmanuel Macron, a accepté sa démission. Certainement que nos confrères vont y revenir dans quelques instants. Bonne soirée.